Pierre, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Moudimaï, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Au cours de cette session parlementaire de septembre dite budgétaire, les députés nationaux ont jugé recevable il y a plus d'une semaine passée le projet de loi des finances pour l'exercice 2026, un projet de budget de 59,021 milliards de francs congolais pour l'année 2026, soit une hausse de 16% par rapport au budget rectificatif 2025 dont la majeure partie seront consacrées à la sécurité, au développement et à la protection sociale. Excusez-moi, sinon l'exécutif congolais, cette augmentation traduit la volonté de renforcer la capacité de l'État à financer les services publics essentiels, à soutenir la croissance et à poursuivre la modernisation du pays. Après avoir été déclaré recevable, le projet de loi de finances 2026 a été transmis à la Commission économique et financière et cofinancière de l'Assemblée nationale avant la présentation du rapport en plénière pour adoption finale. D'aucuns s'interrogent néanmoins sur la capacité du gouvernement à mobiliser les fonds pour atteindre ce budget, mais aussi aux mécanismes qui pourraient être mis en place pour veiller à ce que, excusez-moi, les fonds alloués soient réellement affectés au secteur concerné. Quelles sont, selon vous, une fois que ce budget serait adopté par le Parlement national, les dispositions à prendre pour atteindre ce budget et surtout s'assurer d'une gestion rigoureuse des fonds? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pia@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp des Paroles aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 09 716 80 79. Pierre Diassinois est à la mise en œuvre de ce magazine. Julie Feza Bongonda s'occupe de la réalisation, de la coordination et Jonathan Chimanga est là pour l'équipe multimédia. Au micro, c'est Marcel Ngomombala. Tout et à tous et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas de travail.
Le réchauffage dans ces pays n'existe pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Encore une fois, merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Merci de nous suivre partout où vous êtes, en République démocratique du Congo, mais aussi en dehors de nos frontières, aussi sur la plateforme digitale des Radio Capi, YouTube, X, Facebook. Ce matin, dans votre magazine des champs citoyens, nous parlons de ce projet de loi de finances 2026. J'espère que tout va bien marcher. On aura pour invité, pour en parler, à l'honorable Jethro Muyombi, qui est député national élu de la ville de Lubumbashi, dans le province du Katanga. On va le retrouver d'un moment à l'autre. Merci pour tout ça. On fait signe qu'il est déjà en ligne. Honorable, vous êtes déjà en ligne?
Je suis en ligne, monsieur Marcel. Bonjour.
Voilà. Merci, honorable Jethro Muyombi, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député national élu de la ville de Lubumbashi, de la province du Katanga. Avec vous, on va échanger avec les auditeurs aussi sur ce projet de loi des finances 2026. Et comme tout le monde le sait, la session de septembre est dite budgétaire et les députés nationaux, dans ce cadre, ont jugé recevable il y a plus d'une semaine passée les projets de loi des finances pour l'exercice 2026. Un projet de budget de 59,021 milliards de francs congolais pour l'année 2026, soit une hausse de 16% par rapport au budget rectificatif 2025, dont la majeure partie pour ce budget 2026 sera consacré à la sécurité, au développement et à la protection sociale. Et par ailleurs, selon l'exécutif congolais, cette augmentation traduit la volonté de renforcer la capacité de l'État à financer les services publics essentiels, à soutenir la croissance et à poursuivre la modernisation du pays. Et après avoir été déclaré recevable, le projet de loi a été transmis, le projet de loi de finances 2026 a été transmis à la Commission économique et financière et COFIN de l'Assemblée nationale avant la présentation du rapport en plénière pour l'adoption finale. Mais la grande question, c'est ce que souvent s'interroge bon nombre de Congolais, c'est sur la capacité du gouvernement à mobiliser les fonds pour atteindre ces budgets, mais aussi et surtout aux mécanismes qui pourraient être mis en place pour veiller à ce que les fonds alloués soient réellement affectés au secteur concerné. Alors, avec vous, honorable Jethro Muyombi, on va essayer de répondre d'échanger par rapport à cette fameuse question. Comment peut faire le gouvernement pour d'abord atteindre ce budget, avant de parler de comment mobiliser les fonds pour atteindre ce budget? Parce que bien souvent, lorsqu'il y a un budget qui est voté dans ce pays, on n'arrête pas de dire c'est un budget réaliste, c'est juste de la poudre aux yeux, et comment on va atteindre ce budget. Alors, dans un premier temps, vous pensez qu'il allait de croire à ce budget de 59,021 milliards de francs congolais pour l'exercice 2026.
Monsieur Marcel, bonjour. D'abord, je voudrais dire c'est un sujet très important parce que, vous savez, c'est par le budget que passe le développement de notre pays, la réponse aux attentes de la population que nous sommes en train de représenter. C'est par le budget qu'on dote les moyens nécessaires le gouvernement afin d'avoir la possibilité d'accomplir leur politique. Alors, la question que vous êtes en train de poser aujourd'hui est de savoir si ce budget est réaliste et si c'est possible de démobiliser le fonds. Je dirais oui. C'est possible. D'abord, pour nous, chrétiens, nous disons rien n'est impossible à celui qui croit. Mais seulement, il faut savoir qu'il en vient de responsabilité de tous les acteurs pour que ces billets soient réalistes et puissent être atteints comme il est projeté. C'est-à-dire qu'il y a la part du gouvernement, la part aussi de la somme. Parce que, à un certain moment, un diable qui vit au milieu de nous en tant que population, et nous, qui accompagnons ces contribuables ou qui sommes les contribuables, donc nous devrions comprendre ou encore voir la quintessence même de ces budgets-là, faire en sorte que nous puissions payer les impôts et les taxes qu'il faut, mais aussi que nous puissions changer la mentalité de tous les acteurs économiques qui sont censés contribuer aussi à ces budgets-là. Et à ce moment-là, on aura suffisamment de moyens qu'il faut. Et lorsqu'on a suffisamment de moyens, il faudra maintenant que le gouvernement est censé mettre en action ou en application cette loi de budget qui sera bientôt votée et répondre à toutes les attentes ou les exigences qu'il y a selon que cela est fait. Donc bref, je vais dire que c'est possible.
Voilà, vous l'avez dit, il faut y croire, il y a moyen pour le gouvernement congolais de mobiliser ses fonds et atteindre ses budgets. Mais il y a une autre paire de manches, c'est surtout celle maintenant de l'affectation des fonds tels que ce projet de loi le présente. Il y a bien souvent, on dit qu'on vote un budget, mais c'est seulement le grand problème, c'est surtout aussi sur l'affectation des fonds. Et souvent, on reproche à vous, les honorables députés, de ne pas bien assumer votre rôle de contrôle parlementaire, ce qui fait que, deux fois, on ne sait pas bien savoir si les fonds qui ont été affectés dans un secteur bien déterminé ont bel et bien servi à ce dont cela a été destiné.
Vous avez tout à fait raison. Il y a de pratiques qui ont été aussi connues dans notre pays.
Je crois, peut-être, je peux en donner l'exemple de d'un ministère qui a demandé, par exemple, ça nous avons discuté de ça, on a dans la reddition des comptes, qui n'est autre que évaluer le budget de l'année passée, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, le fonds qu'on a pu mobiliser, ce qu'on n'a pas pu mobiliser, comment on peut actualiser la situation, comment est-ce qu'on peut répondre, par exemple, aux écarts qu'il y a eu ou au surplus qu'il y a eu ou à la déficit. Alors, on a vu, par exemple, le ministère, je l'ai porté dans mes écrits que j'ai déposé à la commission ECOFIN et dans le bureau de l'Assemblée pour qu'on puisse apporter un apport dans ça. Par exemple, un ministère qui a demandé, je prends un exemple, 1 million pour ça, tes différentes activités, mais en réalité, qui n'a pas pu consommer tout le montant qu'il fallait. Mais pour moi, c'est peut-être parce que il y a eu une léthargie ou peut-être il y a eu certaines dispositions qui n'ont pas peut-être permis à ce que ces fonds puissent être utilisés. Et pour éviter d'être taxé du détournement, je vais dire, d'utiliser ces fonds à autre chose, on a laissé ces fonds, on n'a pas touché à cette ligne budgétaire et les fonds sont restés comme ça. Pour moi, en tant que représentant du peuple, c'est un gâchis, c'est une perte parce que on devrait mettre en application, on devrait utiliser cette ligne de fonds pour que ça réponde à un besoin. Comme vous le savez, le budget, c'est tout simplement les inquiétudes que présente la population ou le besoin que le gouvernement constate sur terrain et il transforme ça en termes de chiffres pour que lorsqu'il obtient l'argent en main, et avec cet argent, il le répond ou il résout le problème qu'il y a. Mais il arrive aussi que vous avez une ligne budgétaire, vous avez les fonds disponibles. Mais au lieu peut-être d'utiliser ça à l'objectif qu'il fallait, mais on amène ça à autre chose. Et dans des cas pareils, c'est pour cela que le Parlement existe. Bon, dire que le Parlement ne fait pas son travail, ça peut être aussi vrai, parce que tout être humain ne peut pas être parfait. Alors, ce que moi je peux dire, c'est aussi ce qui est important, c'est si quelqu'un a des informations nécessaires, apporter ça auprès des élus que nous sommes pour essayer de suivre, parce que c'est ça même notre mission, c'est ça notre rôle. Et personnellement, je ne peux pas cautionner que s'il y a une ligne budgétaire, le fonds qui ont été alloués par exemple à la construction de la route, et que ces fonds sans raison ou sans sans décision de l'autorité compétente qui est les législateurs, qui est l'Assemblée nationale dans les cas échéants, n'a pas décidé de désaffecter ces fonds vers une autre région, ça ne peut pas être désaffecté. Et s'il y a des cas comme ça, vous avez entendu, il y a des ministres qui ont été interpellés dans notre pays pour tout simplement avoir utilisé l'argent qui devrait aller à un projet X, mais ça a été envoyé ou muté à un projet Y sans l'autorisation. Et dans les cas comme ça, l'Assemblée, qui est l'institution de contrôle qui doit contrôler les gouvernements, ne peut pas se laisser faire. Et je pense que si une information pareille est connue, on ne peut pas se taire. Donc, l'Assemblée pourra toujours continuer à faire le travail qu'il faut. Deux fois, on l'acquise aussi de beaucoup de mots sans tout simplement s'approcher de cette assemblée-là pour savoir pourquoi ceci n'a pas été fait, pourquoi cela a été fait et pourquoi ça a été fait de cette manière et en avoir les informations, l'explication qu'il faut pour pouvoir cette fois-là être éclairé. Parce que tout ce qui s'est dit aussi, des fois on peut aussi tomber dans ce qui n'est pas réel.
Voilà pourquoi bien souvent, on a toujours dit que souvent aussi au niveau de l'Assemblée nationale, on communique pas suffisamment. On en a vraiment évoqué lors de la législature passée qu'on communique pas suffisamment parce que bien, quand vous avez dit, vous êtes le représentant du peuple, le peuple compte énormément sur le rôle que doit jouer le député national, surtout lorsqu'il y a des fonds qui ont été affectés dans un tel ou tel autre secteur. Maintenant, voilà par exemple pour le projet de loi 2026, dans la clé de répartition, il y a par exemple le secteur sécuritaire qui pourra, en tout cas si ma mémoire ne me trahit pas, 30% du budget sera consacré au secteur sécuritaire. Mais la question qu'on va se poser, lorsque déjà on parle de la du problème de sécurité à l'est de la RDC qui n'a fait que durer plus de 30 ans, il y a un budget de 30% qui pourra être 30% du budget pourra être affecté à ces secteurs. Mais pourquoi il n'y a pas ce regard rigoureux de l'Assemblée nationale par rapport à la gestion des ces fonds une fois que c'est mobilisé pour s'assurer vraiment que les 30% pour les secteurs sécuritaires ou bien pour d'autres secteurs tels que l'agriculture feront vraiment le travail que tout le monde attend. On dit souvent qu'il y a une forte léthargie au niveau du Parlement.
Monsieur Marcel, merci. Moi, je pense maintenant, nous devons peut-être nous atteler sur le présent et sur l'avenir, sans oublier bien sûr que le passé constitue l'expérience que nous devons nous inspirer de ça. C'est pour la toute première fois, je crois, depuis deux années dans notre pays que nous puissions avoir, si pas la première fois, mais depuis ces 15 ou ces 30 années passées, que nous avons dans notre pays la loi sur la programmation de la police. Et vous savez que cela a été l'œuvre de ce parlement, de votre parlement actuel. Et vous avez aussi dit qu'il y a eu une question orale qui était adressée au ministre de l'Intérieur sur tout ce qui concerne la situation sécuritaire à l'intérieur de notre pays, l'insécurité et autres, l'équipement de policiers. Et encore, vous voyez que dans le budget qui a été présenté, sur lequel la commission ECOFIN est en train de travailler, aujourd'hui, vous avez le ministre de l'Intérieur qui est attendu encore à l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est pour montrer que la situation d'aujourd'hui, c'est différent de la situation d'hier. On est en train de s'atteler sur des questions importantes et je ne pense pas qu'il y aura cette léthargie ou cet oubli. Parce que si vous avez suivi, vous êtes journaliste, vous étiez en train de suivre le débat de l'adoption même de ces budgets. Il y a un collègue qui a parlé par rapport à cette loi budgétaire, cette loi de programmation de la police, par rapport à ce qui est dans le budget. Je crois que ça sera même réajusté à la commission ECOFIN. Et ne vous en faites pas, rassurez-vous que nous allons ouvrir l'œil et les bancs pour suivre que ce qui est alloué à la sécurité, à la quiétude de la population puisse réellement être d'abord trouvé, mais aussi utilisé correctement. Parce que nous ne pouvons pas être d'accord, nous ne pouvons pas nous réjouir d'être là où nous sommes si les solutions ne sont pas trouvées à des questions criantes qui dérangent la population aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous serons toujours là, nous allons suivre, nous allons poser des questions, nous allons d'abord, je vous rassure que lors de l'adoption de ces projets de loi, nous allons veiller pour que tout ce qui concerne la programmation de la loi sur la police soit réellement respecté. Et aussi, nous allons travailler pour la mobilisation nécessaire de fonds ou l'encadrement du gouvernement pour qu'il puisse aussi mobiliser les fonds nécessaires, parce que l'objectif, c'est de trouver des solutions à tout ce qu'il y a comme problème. Donc, je voulais dire, M. Marcel, on ne peut pas s'atteler sur le passé. Essayons de regarder le présent, maintenant, et ce que nous allons faire demain, qui ne peut être dicté ou orienté que par les actes qui se posent maintenant. Voilà. Peut-être nous allons nous inspirer du passé pour améliorer aujourd'hui et demain.
Voilà, le peuple ne demande que ça, la population n'attend que ça, voir ses représentants à l'Assemblée nationale jouer exactement le rôle qu'on attend de voir. On vous garde encore en ligne, honorable Jethro Muyombi. On va ouvrir le standard. Il y a Maître Patrick Odia, qui nous appelle depuis le Lubumbashi, et également Junior Bopong, qui est à Kinshasa, qui aimerait déjà intervenir. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine des chants citoyens paroles aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de ce projet de loi des finances 2025 et surtout de la capacité du gouvernement à atteindre le budget tel qu'il a été présenté par la première ministre devant l'Assemblée nationale dans ce projet de loi des finances 2026 et s'assurer des gestions rigoureuses des fonds. Si vous voulez intervenir, le numéro, c'est les 09-716-80-79.
Radio Okapi unit le Congo avec vous au centre de ses activités. Vos problèmes, vos avis, vos pistes de solutions sont l'objet de notre émission Parole aux auditeurs. Où que vous soyez, Parole aux auditeurs vous donne la parole. Dans Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action.
Voilà, on y va avec Maître Patrick Odia qui nous appelle depuis Lubumbashi. Maître Patrick, vous avez la parole.
Bonjour Marcel, bonjour à l'honorable Jethro Muyombi et à tous les auditeurs de Radio Okapi également. Merci de m'associer à ce niveau du débat. D'emblée, je voudrais saluer l'efficacité et la diligence du gouvernement d'avoir déposé le projet de loi de finances dans le délai. Et je pense qu'il y a un travail qui a été fait, il faut reconnaître, un travail technique qui a été fait, qu'il faudrait le reconnaître également. Mais au-delà de cette diligence affichée symboliquement par le gouvernement en déposant sur le plan de la forme, mais sur le plan du fond, il y a également de quoi se dire félicitations, quoi dire félicitations au gouvernement du fait qu'il y a quand même 16% d'amélioration du budget. On va dire également plus de 16% qui se sont ajoutés au budget qui a été, qui a connu la réduction des comptes, je pense que récemment également. Donc, voir aujourd'hui le budget aller jusqu'à 25 milliards, alors qu'il y a 10 ans, 5 ans, 8 ans, on avait un budget de 5 milliards. Je pense qu'il y a nécessité de pouvoir encourager des réformes qui doivent être également continuées pour qu'on puisse maximiser tant de milliards afin de pouvoir résoudre les problèmes sociaux. Cependant, Marcel, il y a ce qui cache. Lorsque vous voyez la loi de réduction des comptes, par exemple, je salue d'ailleurs la présence de l'honorable Jean, l'honorable Jethro qui est dans les studios. Qui, vous avez été, honorable, un peu complaisant, permettez-moi les termes, parce que la réduction des comptes, lorsque vous les prenez, vous la prenez, il y a des budgets où il y a des fonds qui ont été alloués, par exemple, au paiement de magistrats. Vous êtes avocat, je vous connais, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes de Lubumbashi, je connais, vous êtes avocat. Et ces fonds-là ont été alloués aux magistrats dans la réduction des comptes. Il y a eu sortie. Mais au moins, les magistrats n'ont pas touché cet argent également, nonobstant le premier mois qu'ils ont touché. Mais quand vous faites les calculs de la réduction des comptes, ils auraient dû bénéficier des 4 ou 5 mois également depuis qu'ils ont été nommés. Et cet argent a été décaissé dans la réduction des comptes, a été confirmé. Même le rapport des cours des comptes que nous avons sur papier ici confirme cela. Est-ce que les parlements ont-ils travaillé dans la réduction des comptes comme il se doit également? Ça, c'est une question. Mais parce que nous ne sommes pas sur la réduction des comptes également, nous sommes maintenant sur le projet de loi des finances honorables, je voudrais vous inviter à plus de sincérité. Vous savez, un budget doit être sincère, un équilibre des dépenses, mais aussi en termes de dépenses et aussi de tout ce qui va avec en termes de récolte des données ou récolte des fonds également. Il faudrait qu'il y ait des réformes structurelles. Et parmi les réformes structurelles, l'une des armes qui gâche la collecte des fonds, c'est la corruption. Vous n'êtes sans ignorer que pour atteindre les 25 milliards, ce n'est qu'un projet. Marcel l'a dit dans l'introductif également. Ce n'est qu'un projet que nous allons au moins imaginer que nous allons avoir 25 milliards. Mais il faudrait qu'il y ait des mécanismes qui vont suivre. Il faudrait qu'il y ait un contrôle rigoureux de part du Parlement également qui doit contrôler l'action, non seulement dans l'affectation de ces fonds, mais aussi dans l'utilisation de cet argent. Et c'est à vous qui devait jouer ses rôles réellement au-delà de toute la passion du parti politique, de l'Union sacrée, mais vous devez jouer votre rôle essentiellement comme il se doit en tant que parlementaire. Donc vous comprenez qu'avoir 25 milliards, c'était réellement ces 25 milliards au développement du pays, ça serait mieux. Et pour ce faire, il faudrait qu'il y ait un contrôle rigoureux du Parlement et que la Cour des contrôles, Cour des comptes, j'avais dit, puisse également jouer son rôle également. Honorable, lorsque vous prenez les budgets du ministère des Affaires étrangères, par exemple, où il y a eu des passements de 116%, 116%, seul le ministère des Affaires étrangères également. Les dépassements étaient 116%, contrairement à ce qui a été prévu, contrairement à ce qui est prévu également dans la nouvelle loi du budget également. Vous voyez qu'il y a une certaine complaisance également. Lorsque vous prenez les institutions, notamment la présidence de la République, le Premier ministre ou la primature, ainsi que certaines institutions, à elles seules, on prend 1 milliard, plus de 1,5 milliard, juste pour le fonctionnement. Alors la Première ministre, Madame Soumina, vous dira que non, nous sommes en train de vivre la réduction des trains de vie. Le président de la République l'a toujours dit. Mais ça ne va pas dans le sens des réductions des trains de vie. Du fait que la primature et la présidence, à elles seules, vont prendre 1 milliard. Au 1 milliard sur 25, c'est presque quelques pourcentages également que je ne saurais pas peut-être calculer ici en urgence également. Vous voyez que vous avez un rôle pour pouvoir nous mettre ces urgences également. J'ai aimé également dans la planification que vous avez mis l'accent sur la couverture sanitaire, c'est ce qui est bien, et vous avez mis également l'accent sur les infrastructures, notamment la relance des PEDEL 145 territoires. Il faudrait qu'il y ait un travail pour voir quel est l'argent qui a été décaissé. Et cette fois-ci, on va décaisser comment? Est-ce qu'il y a des suivis par rapport à l'affectation réelle? C'est là où nous, on vous responsabilise merci. On traite certains d'entre vous des complices par rapport au détournement, à la corruption, de tout ce que nous connaissons également.
Voilà, dans les... merci beaucoup.
J'encourage le gouvernement, mais nous devons rester très rigoureux, très exigeant dans l'affectation, mais aussi dans la récolte également des données.
Voilà, on retient qu'il faut éviter la complaisance, mais plus de rigueur dans le contrôle parlementaire, dans la vérification des données, surtout l'affectation des fonds alloués. Merci, Maître Patrick Odia, d'avoir appelé depuis Lubumbashi. Gino Mbopongo, vous êtes à Kinshasa, vous avez la parole, on vous écoute. Non, on fait signe qu'il n'est plus en ligne, Junior Mbopongo. Enfin, il est là. Oui, il est là. C'est bon, on y va. Gino Mbopongo, vous êtes bel et bien là. On vous écoute. Vous appelez depuis Kinshasa. Vous avez la parole. Gino Mbopongo, vous êtes là. Apparemment, il y a...
Vous m'entendez?
Bon, c'est bon maintenant. C'est bon. Allez-y, Gino. On vous écoute. Allez-y.
Oui, bonjour à vos auditeurs et aussi à l'intérieur. Le mot que je peux dire est que une fois le budget 2026 serait adopté, la première exigence serait la crédibilisation de la mobilisation interne, notamment par l'élargissement de l'assiette fiscale, la lutte contre l'évasion et la rationalisation des exonérations. Et par rapport à ça, je crois qu'il faudrait ensuite renforcer la traçabilité des fiches financiers grâce à une digitalisation intégrale de la chaîne de dépenses et à la bancarisation systémique des paiements publics. À la suite de cette idée, je crois que la rigueur exige également un contrôle parlementaire effectif sorti du formalisme avec audition régulière et sanctions budgétaires en cas d'écart. L'Inspection générale des finances et la Cour des comptes doivent être dotées de moyens contraignants pour prévenir les détournements plutôt que les commenter a posteriori comme nous constatons chaque fois. Et pour peut-être citer, je dirais, une règle de transparence sectorielle obligeant chaque ministère à publier ses engagements trimestriels s'impose parce que nous avons constaté à chaque fois que le budget est voté, le dépassement budgétaire qui ne se justifie pas. Et enfin, je dirais, mais que la priorisation réelle de la sécurité, du développement et du social ne peut se faire sans une hiérarchisation stricte des dépenses limitant les trains des lits institutionnels. Autrement, le budget restera une promesse sans impact réel pour la population congolaise.
Voilà. Merci beaucoup, Junior Mbopongo, depuis Kinshasa. Avant de revenir au standard, je m'en vais lire cette réaction de Mbopongo qui nous écrit depuis Mbandaka concernant la gestion des fonds. Quelles garanties le gouvernement mettra-t-il en place alors que le phénomène des détournements dans notre pays, la RDC devient de plus en plus gangrène? Par ailleurs, quels sont les secteurs clés du développement auxquels ce budget devrait donner la priorité? On revient au standard avec Ornicar Banda qui nous appelle depuis le Kassi. Ornicar, vous avez la parole.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à l'invité. Nécessairement, nous avons aussi apprécié particulièrement les frais qui ont été ces projets de loi de finances à la République. Et je crois que l'entrée reste presque la même par le fait que depuis un certain temps, nous constatons, c'est vrai que les chiffres augmentent, mais l'applicabilité de ces chiffres-là sur le terrain, c'est ce qui pose beaucoup plus de problèmes parce que nous avons constaté, nous tous, que les chiffres augmentent, mais dans la réalité, il y a un problème. Et aussi, l'autre crainte, c'est beaucoup plus ce que vous avez relevé d'ailleurs dans la thématique sur ce qui concerne l'affectation de ce montant là-bas. Vous allez voir que, au début, les affectations sont autres, mais dans la réalité, quand les autres institutions font les dépassements budgétaires, ce qui supposerait qu'ils prennent ça dans d'autres comptes, ce qui pourrait encore plus poser problème. J'ai demandé aux députés, en dépit de ce qu'ils viennent de faire, ce qui est à saluer, mais qu'ils fassent aussi des démarches plus efficaces dans le sens de la réduction des trains de vie des institutions, ce qui pourra aussi permettre à ce que la population congolaise se retrouve.
Voilà, merci à Onikar Banza depuis Alikassi. Je reviens tout de même à notre invité, il pourra réagir par rapport à ses premières interventions. On a insisté sur la complaisance au niveau du Parlement, on a insisté également sur le fait qu'il n'y a pas assez de rigueur et surtout, on a suivi Maître Patrick Odia qui a parlé souvent du dépassement par rapport à ce qui a été prévu, des dépensements qui vont par exemple au-delà du 100%. Et selon Maître Patrick Odia, vous avez suivi en principe, il faut qu'on mette dans l'ordre dans tout cela. Honorable Jethro Moyombi, vous avez suivi ces premières interventions, comment réagissez-vous?
Merci beaucoup Marcel, merci à tous les intervenants aussi qui portent leur attention à cette matière importante qui concerne notre pays. Alors, je dois dire une chose, la réaffectation, c'est un fait réel et reconnu dans certaines circonstances. On peut toujours réaffecter les fonds, mais il y a des mécanismes par lequel il faut passer pour réaffecter un montant d'un budget qui était destiné à X travail vers Y. C'est possible, mais ça doit respecter un certain nombre de principes. Alors, la question elle-même, je pense, Maître Patrick l'a dit aussi, même Monsieur Junior. Pongo, je crois, si j'ai bien retenu, non, l'a dit aussi. Monsieur Ornita vient de finir par là. C'est de la responsabilité de l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée nationale, mais c'est aussi la responsabilité du chef de gouvernement de veiller à ce que les fonds sont utilisés tels que prévus dans le budget. Mais nous avons de l'autre côté le pouvoir judiciaire aussi qui doit faire son travail. Nous avons le cours de compte, donc tu dois accompagner l'exécution du budget aussi, essayer de fournir autant d'informations qu'il faut. Vous le savez que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'a dit, que nous sommes en train de travailler aussi d'une manière à lutter contre la corruption dans notre pays, à réduire sensiblement, parce que dans tout le pays du monde, vous savez que c'est une réalité sur laquelle tout gouvernement se bat pour arriver à éradiquer à 100% ces décalages, les désaffectations, l'utilisation indisive peut-être de fonds alloués à ceci ou à cela, comme j'étais en train de le dire. Et nous, en tant que Parlement, nous, en tant que vos représentants, nous sommes conscients de cette mission et de cette responsabilité. Et je pense que nous ne croiserons pas le bras. Et j'aurais aimé, Maître Patrick l'a dit avec beaucoup d'enthousiasme, mais j'aurais aussi aimé écouter d'un fils qu'une petite félicitation. Bon, nous ne sommes pas là pour être félicités, mais pour faire le travail pour lequel vous nous avez envoyé au Parlement. Mais je pense... C'est là que vous avez entendu, on a dit de tout et de rien sur le Parlement lorsqu'il fallait livrer un ministre à la justice. bien que nous tous, on pouvait peut-être aimer la personne, mais sur un certain nombre de faits, le Parlement devrait décider pour dire non, nous voulons que tel ministre réponde de ses actes devant la justice. Et ceux qui n'ont pas compris la quintessence ont peut-être chatté ou encore posté ou encore dit beaucoup de choses, mais l'Assemblée était devant une réalité dans laquelle il fallait pas cautionner une forme, par exemple, à la loi budgétaire. Et je suis très rassuré que nous travaillerons jour pour qu'il n'y ait pas, si il faut peut-être le dire encore avec sincérité, pour minimiser sensiblement en termes simples, je dirais, le détournement des fonds. Alors, ça, c'est de cette part que je peux au moins rassurer, parce que c'est notre mission. Pourquoi vous allez voir qu'il y aura toujours des questions d'actualité, des questions orales, il y a des démissions même des contrôles. Maintenant, nous sommes pendant la session de septembre, donc septembre à décembre, qui est essentiellement une session budgétaire. Mais vous le savez, ça, vous le savez avec nous, je ne peux pas ignorer que la session de mars, c'est une session essentiellement consacrée au contrôle. Contrôle du gouvernement, le contrôle de toutes les entités du gouvernement, ainsi de suite. Et pendant cette période-là, c'est-à-dire après avoir doté du gouvernement le budget, les moyens pour faire le travail, nous allons continuer à faire ces... Mais les législateurs avaient déjà très bien prévu tout cela. C'est pour permettre que la mission y allait. Le dépassement qu'il y a eu, par exemple, au niveau du ministère des Affaires étrangères, vous connaissez vous-même la réalité de notre pays avec beaucoup de missions aussi organisées pour résoudre le problème de l'Est dans le cadre diplomatique. Je crois que cela peut aussi être explicable parce que on n'a pas prévu d'avoir, je peux pas dire on n'a pas prévu, on n'a pas voulu avoir la guerre, mais bien sûr on pouvait aussi, parce que chaque gestion doit toujours prévoir les risques aussi, donc nous en tant que pays, en tant que l'État, on devrait aussi avoir cela, le budget, mais il s'est fait que des fois ça peut aller au-delà de ce qui a été prévu, parce que les enjeux ou l'ampleur de la situation a sérieusement augmenté. Alors dans ce sens-là, moi je pense que c'est encore un peu compréhensible, un peu, bon, si pas dire normal, que le ministère des Affaires étrangères, parce que c'est ça la voie que nous avions choisie, la voie de la diplomatie, la voie de la collaboration, pour préserver les vies humaines. Vous savez que la guerre commence, on sait comment la guerre commence, mais on ne sait toujours pas comment elle se termine. Et ce n'est toujours pas facile, ou même dans les grands pays, nous pouvons prendre aujourd'hui l'exemple de la Russie avec Ukraine. Vous voyez que c'est la Russie qui est correctement équipée, mais n'a pas pu terminer la guerre dans un mois, dans deux mois. Donc la situation de la guerre, c'est pourquoi on ne doit pas aimer la guerre, on ne doit pas souhaiter la guerre. Nous avions soutenu la voie de la diplomatie parce qu'on compte sur le peuple, pense sur le peuple. Qui, si on se concentre sur la guerre, eh bien, il y a le bain de sang qui va couler. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, on comprendrait quand même la réalité de ces dépassements-là. Mais bon, d'autres dépassements, même si on comprendrait, mais le Parlement va continuer. Je me rappelle que je suis dans cette commission des affaires étrangères et le ministre est aussi attendu à la commission pour essayer de suivre tout ce qui s'est fait. Mais on suivra aussi comment le dépassement et tout ça pour essayer d'encadrer et de réduire cela dans les jours qui viennent.
Voilà, c'est bien. Donc, c'est bien dit.
C'est un peu ça.
oui, c'est bien dit. Hein, donc, continuer à jouer ce rôle. Le plus important, c'est de savoir, honorable Jeto Muyombi, on l'a dit, lorsque cette nouvelle législature est arrivée aux affaires où il y a beaucoup de jeunes, on attend beaucoup, beaucoup de cette nouvelle législature. Il y a vraiment beaucoup de jeunes députés pour que les choses puissent vraiment changer, surtout certaines habitudes parlementaires qu'on a connues par le passé. passé puisse ne plus jamais se reproduire. Voilà pourquoi vous comprenez que des fois il y a cette espèce un peu de les gens sont un peu trop comment je dirais très regardant par rapport à le travail que vous faites. On vous garde en ligne, on vous garde en ligne, on va revenir à vous. Nous avons Jules Katengue qui nous appelle depuis Kisangani. Jules, vous avez la parole.
Bonjour, M. Marcel.
Jules, éloignez-vous de votre radio. Hein. Apparemment, vous avez votre radio allumée. Hein. Vous éteignez là carrément. Hein, et on va vous suivre avec votre téléphone. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Éloignez-vous de votre radio carrément. Essayez de l'éteindre. Allez-y, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole à vous. Je voulais un peu intervenir concernant le budget. Le budget qu'on a dû allouer. D'accord. Mais j'aimerais un peu me marteler sur le mode de démobilisation de parce que le budget est là, mais il y a beaucoup de choses à revoir d'abord sur le plan des interprétations du budget. Même la réduction de trait de vie n'est pas encore complète selon moi. On doit encore revoir d'autres dispositions aussi réduire les traits de vie des autres dispositions. Mais je salue d'abord le support fourni par le gouvernement actuel. Pour le bidon qu'on a projeté, c'est un bidon, on n'a pas encore eu l'argent, mais on a le devoir d'avoir l'argent. Alors, que devons-nous faire pour avoir cet argent? Nous savons très bien, il y a les secteurs qui demandent l'argent. Alors, notre gouvernement a le devoir de valoriser ces secteurs-là. Entre autres, les secteurs comme le secteur agricole. C'est un secteur qui devait nous fournir aussi l'argent. Parce que l'agriculture n'est pas seulement, produire tout ça. Oui, nous connaissons que l'agriculture prend des vaches, l'exploitation des sols et des soupçons, tout ça. Il faut donc que l'affectation de cette idée-là, et aussi un impact significatif sur la production agricole, ce qui va permettre à ce que notre production soit satisfaisante auprès de la population.
Alors Jules, on a fait un effort de vous retenir parce que vous êtes un des auditeurs qui passent rarement, mais la communication n'était pas très bonne. Mais on retient, c'est que vous avez dit, vous avez insisté surtout sur les secteurs agricoles, hein, donc le budget qui sera dans la clé de répartition, ce qui sera loué dans les secteurs agricoles puisse vraiment être affecté pour qu'on puisse développer l'agriculture en RDC. Merci Jules Katenga d'avoir appelé depuis Kisangani. On va écouter cette fois-ci Sylvain qui nous appelle depuis Magui. Sylvain Aguenov, vous avez la parole.
Bien, merci Marcel. Je voudrais d'abord vous signaler que je suis en train de suivre cette émission, mais je ne sais pas si nous avons jeté un coup d'œil dans les forums WhatsApp par les auditeurs. C'est que 99% des gens qui ont commenté sont sceptiques par rapport à la réalisation budgétaire, ça veut dire son exécution. Les problèmes de la mobilisation, mais comment est-ce qu'on utilise? Le roi des jeux trop semble vraiment être d'accord avec tout. Moi, je ne les comprends pas, puisque en tant que membre de l'Union sacrée, il ne peut que dire que les choses marchent. Mais aujourd'hui, messieurs Marcel, nous devons aider le président de la République, puisque c'est lui le premier garant. Et c'est lui qui est là qui va se justifier à un moment donné. Nous avons aujourd'hui 2 ans pour qu'on puisse aller aux élections. Qu'est-ce qu'il va présenter comme résultat sur le plan social? Monsieur Gétro, les députés, est-ce que lorsque nous regardons les 26 provinces du pays, sur le plan même élémentaire, la nourriture, où se retrouvent les Congolais, s'il vous plaît? Ça fait quelques mois que nous avons discuté ici des ODD. Est-ce que ces budgets répondent vraiment à ces problèmes-là? Monsieur Marcel, excusez-moi, aujourd'hui, je ne veux pas beaucoup parler. Je vous ai dit que je suis en deuil, mais j'ai estimé que c'était important. Quand j'ai dit Monsieur Mbombo Samuel Gentil, qui l'a appelé Saïd El Massi, Fatima Ima, Christian Stibawé, tout le monde vous semble que les gens sont sceptiques. Et ceci doit interpeller Monsieur Gentil, qui est député, pour interpeller les membres du gouvernement et la gouvernance des finances publiques. Répondre avant. institutionnel. Laissez-moi seulement le président Sissi.
Voilà, merci Sylvain Ganoff.
À la place.
Oui, allez-y.
Excusez, donnez-moi juste deux secondes. Oui. Je m'arrête à dire ceci. À la place de venir faire chanter des théories des finances publiques dont j'ai trop fait allusion, je suis enseignant d'université, j'enseigne les finances publiques, ça fait plus de 10 ans. Qu'est-ce que nous devons poser comme acte pour que ce budget réponde exactement au problème des Congolais? C'est ça le rôle de M. Gétrou à l'Assemblée nationale.
Merci voilà, merci beaucoup Sylvain Ganoff. Avant d'accorder la parole au tout dernier, Jean-Claude Sefo qui nous appelle depuis Kindu, les condensés directions que nous propose chaque fois Julie Fézard Bongonda. Il y a des raisons favorables qui mettent l'accent sur la volonté politique, l'ambition du budget, la fierté nationale liée à la hausse, l'estimant qu'avec rigueur et transparence, des changements positifs sont possibles. C'est ce que pense Abdoul Zibayo qui est plus chez Bakoulou William Félix Asinga Yeo. Aspik Fundi, Viatou, J. Vince, Ofeka Baofa. Réaction défavorable, ils expriment leur scepticisme face à l'applicabilité réelle du budget, dénoncent le manque des sanctions, de la corruption, l'absence de retombées concrètes pour la population et la persistance de la misère, malgré les chiffres présentés. C'est le cas des héritiers Moïndo, Kibangu, Georges Kilangalanga. Il y a également Deogracias Stanlas qui pense ici, Maître Moubole Fadili, Christian Kassissé, Modeste Bimbi, Maître Naomi, Steve Baogore, Bangé Nda Banga, Christian Pati Maïma, Alimassi et Blaise Saïdi. Réaction neutre, il se limite à des observations factuelles et invite à attendre la suite du processus budgétaire sans manifester des positions tranchées. C'est le cas de Christophe Kalagwa et aussi Justin Bopongwe. Cette question, la crédibilité et la capacité des transformations du budget 2026 sera-t-elle enfin convaincre? Notre invité va réagir par rapport à cela. Je prends le tout dernier auditeur pour deux minutes. Jean-Claude Sefou, vous nous appelez depuis Kindu. Vous avez deux minutes. Allez-y rapidement.
Merci beaucoup, cher Marcel. Merci aussi à tout le monde. Marcel, je pense qu'on peut avoir même, on peut atteindre même le chiffre de 100 milliards de dollars américains pour notre budget. Mais si.
Quelques soucis avec.
Puisque nous évoluons dans un environnement. Nous évoluons dans un environnement ces années. Pour les temps chez moi, c'est pendant la pollution reine. C'est zéro. Je vous dis, c'est Masco. Et imaginez-vous lorsque madame la première ministre a présenté son budget. En presque tous les secteurs, il y a un dépassement budgétaire. Et que la population, elle ne se retrouve pas. Et vous allez dire quoi? Nous avions le budget, je ne sais pas la projet de mandat d'entrée, nous avions le budget de 4 milliards ou de 5 ou 6 milliards. La population se retrouverait. Mais au jour d'aujourd'hui, on a quitté, on ne sait pas, des moyens de la société de 5 ou 8 à 5 aujourd'hui, on a 6 milliards. Mais c'est quoi la population?
Voilà.
Il y a une population à outrance. Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans presque tous les secteurs de la vie nationale? Marcel, notre gouvernement cesse, n'est-ce pas, de prendre à la population. La population n'est pas dite. Nous prenons en compte et nous disons que 2028 approche où nous allons mettre fin à cette situation. Voilà.
Voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude Sefou, depuis Kindu. On revient à notre invité honorable, Jethro Moyombi. Honorable, vous avez la parole. Ça sera votre conclusion. Vous avez trouvé. Il y a ceux qui sont sceptiques. Il y a ceux qui croient quand même. Il y a ceux qui pensent que c'est au gouvernement et également au Parlement, en tout cas, de prendre les choses en main, surtout de la bonne gouvernance et lutter contre la corruption. Honorable Jethro Moyombi, vous avez la parole et ça sera votre conclusion.
Merci, Monsieur Marcel. D'abord, je reviens sur ce que je veux bien remercier tous les intervenants, mais je veux aussi rassurer que je suis conscient de la responsabilité qui est la nôtre, et c'est pour cela que nous autres, nous avions accepté de rejoindre la politique. C'est beaucoup plus pour le bien de la population. Et l'Assemblée doit jouer son rôle. Ça, c'est ce qui est vrai. Mais je dois aussi rassurer ici qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire dans notre pays. Il y en a qui sont faites, mais il y a aussi d'autres choses qui ne sont pas encore faites. Et nous sommes en train d'y aller peut-être à une vitesse aussi de croisière, à une vitesse de croisière, mais qui ne peut pas être facilement visible à cause de certaines réalités de notre pays. Monsieur Sylvain était en train de les dire. J'ai suivi aussi, vous avez parlé de la question de l'impunité. autant de préoccupations. Je rassure encore. Nous ne dormirons pas. Mais pendant que je vous parle, je suis en dehors de Kinshasa, je suis dans une mission d'enquête sur les éléments qui font que le gouvernement peut-être échoue de mobiliser correctement le moyen et s'est douté de ses fonds pour réaliser sa politique. Et donc, en bref, soyez rassurés. Mais comme je le disais aussi au début, ce qui s'est passé hier, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera demain. Nous prenons très bonne note et nous vous confirmons que nous ne dormirons pas un seul jour. Comme le disait M. Marcel, ce Parlement est rempli de beaucoup de jeunes, une nouvelle énergie, même si ce n'est pas facile, même si c'est dans des conditions que vous connaissez. Le Parlement, c'est le Parlement. Nous sommes de la majorité, oui, mais nous ne cesserons pas de faire le travail que le Parlement est censé faire, de contrôler, de suivre, d'encadrer et de déférer à celui qui est censé aussi poser les autres actes en ce qui concerne la question de l'impunité et autre chose. Mais on va se retrouver encore pour évaluer et nous vous donnerons encore autant des éléments que vous allez pouvoir peut-être voir comme ce qui s'est passé bientôt dans les 2-3 mois passés avec ceux qui n'ont pas pu faire correctement le travail. Nous voulons que la population se retrouve à travers ces budgets. C'est la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo, c'est la volonté de nous tous. Nous voulons que les choses changent dans notre pays et nous allons nous y mettre. Nous y mettons déjà pour que nous arrivions à cela. Je vous remercie.
Voilà, merci à vous, honorable Jethro Muyombi. Je rappelle que vous êtes député national élu de la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous retrouver à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, c'est par ici qu'on va mettre un terme à ce numéro de parole aux auditeurs de ces jours qui s'est consacré au projet de loi des finances 2026. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Pierre Dassinois qui est à la mise en onde. Je lui fais un bongonda qui l'a réalisé aux coordonnées, mais aussi à Jonathan Chimanga qui vous a permis de suivre ce magazine en direct sur YouTube, X et Facebook. Au micro, c'était Marcel Ngomombala. Au revoir à toutes et à tous.